Les mains dans la pop.
Ok.
Les mains dans la pop.
C'est les mains ?
C'est ma nouvelle obsession.
Mais dans la pop. Bonjour et bienvenue dans Les mains dans la pop. Ici Mao Drama et en face de moi l'incroyable
Audrey.
Nous avons aussi un autre invité mais on vous en parle dans deux secondes. Actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Alors, petit mémo, cette semaine, on a enregistré en avance notre épisode. Alors, pour délibérer des winners et losers de la semaine, on se retrouve tout droit dans le futur par notre vocal, comme des copains qui vous débrieferaient de l'actu finalement. Et notre sujet du jour, c'est quelqu'un d'assez incroyable. C'est Franck Lao. Bonjour Franck Lao, comment vas-tu ?
Salut, ça va très bien. Merci de m'inviter.
On est hyper heureux et heureuse de te recevoir. Genre, for real, ça veut dire pour de vrai en anglais. on célèbre la sortie de ton livre qui s'appelle « Décolonisons-nous », qui est le même titre que ton compte Instagram. Mais ça, on en reparle dans deux secondes. Tout de suite, les winners et les losers de la semaine.
Win ou lose, telle est la question.
Quel loser ?
C'est ma nouvelle.
Elle, je l'aime trop. Cône.
Le gagnant ou le perdant de la semaine.
Roulement de tambour.
Hello à tous. Alors on commence cette attribution des bonnets d'âne et des lauriers avec un ou une losereuse. Alors en prononçant cette phrase, je serai peut-être bientôt dans l'illégalité la plus totale en France. Et oui, pendant que le monde brûle, Macron n'a rien trouvé d'autre à faire que de prononcer un discours contre la plus grande menace actuelle, j'ai nommé l'écriture inclusive. Oui oui, un peu comme si, je sais pas, moi il cherchait à lancer un débat stérile pour nous distraire au hasard d'une crise, d'un génocide en cours. Alors en fait, pendant son discours qui a eu lieu pour l'inauguration de la Cité de la langue française le 30 octobre dernier, Macron, il en a profité pour régler ses comptes avec l'écriture non genrée. Et il a dit « Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y ajouter des points au milieu des mots, ou des tirés, ou des choses pour la rendre lisible. » Juste pour rappel, le masculin générique, c'est pas neutre, c'est littéralement dans le mot. Masculin. Et ensuite, il a ajouté que la langue forge la nation et qu'il ne faut pas céder aux airs du temps. Effectivement, manquerait plus qu'on évolue. Et je trouve ça drôle pour quelqu'un qui utilise des anglicismes à tout bout de champ et vraiment dont le discours lui-même était bourré d'écriture inclusive. Parce qu'il n'a pas arrêté de dire « celles et ceux, tous et toutes, chacun chacune ». Donc c'est un petit peu le comble. Et en fait, ce discours-là, il s'est déroulé le jour même du vote par le Sénat qui a interdit l'écriture inclusive. Vous avez bien entendu. Et les sénateurs et sénatrices, oui, je suis rebelle, ont adopté une proposition de loi avec 221 voix contre 82, donc vraiment une écrasante majorité. Et en fait, c'était une loi qui a été proposée par la droite et qui était censée protéger le français de dérive. Et la loi, elle veut bannir l'utilisation de l'écriture inclusive, entre autres dans les contrats de travail, modes d'emploi ou règlements intérieurs d'entreprise. Et donc, les sénateuristes, oui, je suis toujours rebelle, en question, ils sont pas allés de main morte sur l'écriture inclusive. Et donc, selon LE, l'écriture inclusive affaiblit la langue française en la rendant illisible, imprononçable et impossible à enseigner. Et ça serait une idéologie mortifère. Mortifère, carrément. Alors moi, je suis étonnée. Je pensais que le français, c'était une langue vivante, qu'elle pouvait évoluer, être dépoussiérée. Je pensais pas que inclure le féminin et le neutre, ça mettait la nation en péril. Alors juste pour rappel quand même, la dérive en question, donc à savoir l'écriture inclusive, ça sert juste à éviter les biais de genre et donc à faire en sorte que le sens d'un mot ou d'une phrase soit pas influencé par le genre, d'apporter une certaine neutralité et d'inclure tous les genres. Donc si par exemple je dis docteur, le but c'est pas de penser seulement à un homme grisonnant avec des lunettes, mais d'inclure tout le monde. Et donc pour ça, il y a plusieurs trucs. Il y a la neutralisation avec des termes épicènes, donc c'est des mots non genrés, comme par exemple scénariste ou scientifique. Il y a la reféminisation des mots avec une forme double. C'est par exemple quand notre cher président dit « celles et ceux ». Et il y a aussi une forme à l'écrit avec un point médian, le fameux. Et il y a aussi des contractions de mots, comme par exemple le mot « c'est le » pour dire « celles et ceux ». Moi, par exemple, j'utilise les pronoms « yel ». Donc c'est la contraction de « il » et « elle » parce que je me reconnais pas dans la binarité homme-femme des genres. J'avais pas réalisé que je menaçais l'ordre public. Et l'écriture inclusive, figurez-vous que c'est plutôt efficace puisqu'il y a une nouvelle étude de psycholinguistique qui est sortie fin septembre et qui prouve justement son efficacité sur les biais de genre. Et donc les mots non-genrés, ça limiterait les biais et le point médian, ça les supprimerait complètement. Et donc comme c'est efficace, évidemment, Macron veut l'éradiquer. Bref, Mao, est-ce que t'as des nouvelles un petit peu plus réjouissantes pour faire baisser ma tension ?
Si certains pays font du moonwalk, et bah écoutez, il y en a d'autres qui font des sauts de biche. C'est une métaphore dansée pour vous dire que certains, pas tous, mais certains avancent en termes de droits LGBT et de reconnaissance d'injustice. Et c'est le cas de l'Autriche, petite surprise pour le pays qui n'est pas forcément le plus progressiste, mais qui vient de voter dans son budget 33 millions d'euros alloués pour les personnes qui ont été molestées par des lois clairement anti-homosexualité. Alors, l'homosexualité, elle a été dépénalisée en 1971, mais malgré cela, plein de lois ont été créées par la suite pour quand même criminaliser les personnes LGBT, particulièrement les hommes gays. Par exemple, la prostitution était interdite pour les hommes gays uniquement. La promotion de la fornication entre personnes de même sexe l'était également. Il y avait une limite d'âge pour les relations sexuelles homosexuelles. Fallait avoir plus de 18 ans. Quand pour les hétéros et les lesbiennes, c'était 14 ans, il y avait aussi l'interdiction de créer des associations LGBTQIA+. Et je trouve qu'il est important de noter cette reconnaissance de crimes d'injustice d'État qui matérialise une demande de pardon. En tout cas, celui de la première ministre Alma Zadig le 19 octobre dernier, qui fait qu'on n'est plus dans des paroles en l'air. On n'est pas là genre « parole », comme disait Dalida, mais dans des « actions ». Dans des actions. Et je pense que ça, c'est à faire dans la vie publique et dans la vie personnelle. Plus d'actions, moins de paroles. Après cette bonne nouvelle, je vais parler d'un petit truc qui m'a rendu triste sur un tout autre sujet, qui est la mort de l'acteur Matthew Perry, iconique pour avoir joué Chandler dans Friends, mais qui était aussi un homme plein de résilience et de courage et qui faisait face à des addictions hyper difficiles. En 1997, il a eu un accident de jet ski. Pour aller mieux, on lui donne un antidouleur qui s'appelle le Vicodin. Et je vous invite à regarder un documentaire qui est sur Netflix qui parle du fait qu'il y a énormément de médicaments qui sont en réalité truffés de drogue. Et les entreprises, les industries pharmaceutiques font ça pour vendre plus de cachets qu'il ne le faut. Sauf que ça met en péril des vies de gens qui n'ont même jamais pris de drogue dite dure. Matthew Perry, il n'est pas mort finalement d'une addiction à la coke. Il est mort d'une addiction à un antidouleur qui a fait qu'il en a pris jusqu'à 50 par jour à certains moments. Il a aussi créé plein d'espaces pour parler d'addiction, une fondation à son nom pour aider ceux qui sont en lutte contre cette maladie. Et le jour de sa mort, d'ailleurs, il n'est pas mort en teufant ou il est mort d'un arrêt cardiaque dans son jacuzzi qui a fait qu'il s'est probablement noyé. En tout cas, moi, je voulais remercier cette personne pour tous les rires qu'il m'a offert, qu'il nous a offert, tout le bonheur et l'exemple d'une vie de résilience et qui n'est ni noire ni blanche, qui est grise.
Le sujet de la semaine.
On va parler de quoi cette semaine ?
Vous avez des idées ?
Ultra cringe.
On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ?
Elle a osé.
Le sujet de la semaine, comme on vous le disait pendant le sommaire, c'est Franck Lahaut, notre invité du jour, l'auteur d'un superbe livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Décolonisons-nous ». Alors, pour te présenter à tout le monde, puisque tout le monde ne connaît pas l'incroyable personne que tu es, j'ai décidé de faire ta biof. C'est une bio... bof. Non, c'est une biof, tu vois.
Okay.
En gros, j'ai essayé de comprendre quelle avait été ta vie. Et volontairement, j'ai glissé dedans des absurdités et des erreurs. À toi, comme avec un buzz imaginaire, de m'arrêter. Tu peux genre dire n'importe quoi, genre bip, ou bravo les lesbiennes, ou Darmanin, rend les OQTF. Enfin, vraiment, le truc qui te met le plus à l'aise. Quel est ton buzz de choix ?
On va faire bip, simple.
Donc, on fait bip et en gros, l'idée, c'est que quand je fais une erreur, tu me corriges pour rétablir la vérité. Comme ça, ça permet un petit peu que tu aies la parole dans ta propre autobiographie, finalement. Alors, Franck, là où vous êtes d'origine sino-laotienne, vous êtes né en France, mais on pense souvent que vous êtes chinois. Bon, on dirait une absurdité, mais malheureusement, c'est la vérité. Vos parents ont fui la guerre civile de cette ex-Indochine française. À 7 ans, et aujourd'hui d'ailleurs, vous avez 100 ans ou 40 ans ou 13 ans. Personne ne sait. Vous êtes si sage.
Bip.
Oh là là ! Parce qu'en fait, on ne dirait pas qu'il a son âge que quand on voit son visage. Vas-y, je te laisse parler.
J'ai 39 ans, donc je suis né en 84.
Quel est l'âge qu'on te donne la plupart du temps ?
Entre 25 et 30 en général.
Magnifique. J'aimerais tellement avoir le même pouvoir que toi. Ta couleur préférée, c'est l'injustice ?
Bip.
C'est vrai, c'était une erreur facile.
Ouais, effectivement, pour l'instant, on va dire que c'est la justice sociale, c'est l'antiracisme.
C'est ta couleur préférée ?
Bah, pour le moment, c'est ce qui m'occupe le plus.
Ça fait longtemps que ce thème est rentré dans ta vie, plus particulièrement comme genre un métier, un...
comme un métier, bah, faudrait qu'il paye déjà.
Ah
Ah là là, ouais, je te comprends.
Mais c'est rentré dans ma vie très tôt, on va dire, au niveau de l'injustice, de la sensibilité à l'injustice, dès le décès de mon père, en fait, qui est mort suite à l'affaire du sang contaminé. Mais autrement, là où je me suis le plus investi et où j'ai le plus été exposé, bah, c'est forcément mon action sur Instagram il y a 4 ans, où je l'ai démarré de manière anonyme.
Absolument. Pour revenir sur le décès de ton père, je concluais ta biographie dessus, mais c'est vrai que c'est un élément qui est hyper important, et dans ton livre et dans ta vie. On apprend dans ce livre que c'est l'origine de ta conscientisation politique, puisque ton père est décédé suite au scandale dit du sang contaminé, le fameux scandale du VIH, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui fait qu'il était évident pour toi que ça avait des racines racistes ?
Alors, à première vue, ça ne l'était pas forcément. C'était d'abord un lien plutôt avec... l'implication de l'État, l'implication d'institutions médicales, avant d'être lié directement à la question raciale. Mais c'est suite à mes recherches que je suis tombé sur des documentaires, par exemple, qui parlaient de la colonisation, qui avaient participé à en fait, la diffusion du virus, notamment lors de l'expansion de l'industrie automobile et du besoin en caoutchouc, qui a poussé les pouvoirs coloniaux belges et français tout ça à courir après ces matières premières et à forcer des populations noires africaines à travailler dans les forêts de caoutchouc d'EVA, quoi.
Okay.
Donc ça les a mises en contact, ces populations, avec le virus qui n'était pas censé rencontrer finalement.
D'accord.
Et ensuite il y a eu les mouvements entre des deux colons, ou les mouvements des corps des continents africains vers l'Europe, et puis etc., avec l'exploitation des corps féminins, l'exploitation sexuelle, des choses comme ça qui ont amplifié le phénomène.
Ta conscientisation, la première fois qu'elle s'exprime, une des premières fois, mais peut-être que tu vas me dire bip, c'est par le rap. Tu as créé un groupe avec deux amis en 2001. C'est vrai, c'est faux. C'est semi-vrai, c'est semi-faux.
Oui, bip et pas bip, en fait. Il y avait plus d'amis, on était 6, 7, je ne sais plus.
Ok, il s'appelait comment ce groupe ?
Alors, la première, c'était SDLR, Syndicat de la Rime.
Alright,
j'adore.
Après, ça voulait dire beaucoup de choses, parce qu'à chaque fois, on cherche des... Moi, aujourd'hui, je dirais séparatistes de la République.
Allez. Mais le rap, t'as trouvé que c'était une bonne expression artistique pour pouvoir justement exprimer ses colères ?
Alors, le rap, oui, forcément, c'est quelque chose... C'est une culture dans laquelle j'ai baigné, le hip-hop. Je suis quasiment né dedans. J'ai grandi en aimant MC Solar, des artistes précurseurs, IAM, NTM, comme beaucoup de ma génération. Mais c'est effectivement une des seules musiques qui m'a parlé et qui me paraissait parler en fait de la question raciale. Mais quand même si elle était influencée par les questions politiques du moment où on identifiait le racisme que du côté de l'extrême droite. Après, ça évolue aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vraiment par là que je suis rentré.
D'accord. All right, ton synastro, Jamie. Le combat ascendant réseaux sociaux, lol, je t'ai fait une charte astrale, mais en fait, de qui tu es. Anonyme, longtemps tu l'as été derrière le compte de sensibilisation Décolonisons-nous, et vous avez levé le masque dernièrement, vous êtes la personne derrière le mouvement Free Britain, non pas du tout. C'est lors d'un podcast, d'un épisode du podcast Kif Taras, animé par Grace Lee et Rokaya Diallo Queen, parmi les queens que vous vous dévoilez. Vous avez eu des réactions qui vous ont étonné, tu peux nous en dire quelques-unes ?
Oui, les principales réactions, c'était « Mince, je croyais que t'étais une femme noire ou une femme nord-africaine. » Enfin, perçue
comme... Parce que
comme
tellement d'empathie et de déconstruction que... Du coup, t'es une femme, tu penses que ça venait d'où, cette impression ?
Peut-être, oui. Enfin, je pense que c'est multifactoriel. Le fait que peut-être je parle d'intersectionnalité, par exemple, que je n'ai pas de frein, finalement, sur ces sujets-là et que je n'hésite pas à me remettre en question, des choses comme ça, je ne sais pas.
Mais bravo, ça veut dire que t'as des belles qualités, qualités qu'on associe visiblement à la féminité. Que en penser, je ne sais pas, 2000 ans de patriarcat. Mais bravo du coup d'être une lumière d'espoir au bout du tunnel. Vous prenez donc la plume avec ce livre qui vous réconcilie avec vos velléités d'écrivain, vous qui souffriez d'un syndrome de l'imposteur car vous n'avez pas fait d'études académiques, mais l'école de la vie, comme le dit la philosophe Léa Seydoux. Il est sorti le 3 octobre dernier, il s'appelle donc Comme ton compte Instagram. Et une des difficultés que tu as ressenties, c'était le fait qu'il fallait organiser les idées en amont, alors que tu étais habituée à une forme d'expression qui était spontanée avec ton compte Instagram.
Ouais, bah, très freestyle. Très basé sur l'actualité ou le ressenti du moment, l'envie ou pas d'en parler, l'envie de partager sur le coup, une spontanéité, voilà, très improvisée quoi.
Ok, et bah écoute, en tout cas on a hâte de s'y plonger, je laisse maintenant la main à Audrey qui elle s'y est plongée.
Je m'y suis plongée un petit peu, oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et je me suis particulièrement davantage plongée dans le chapitre qui parle de pop culture, donc de culture populaire. Et dans ce chapitre-là, tu dis que la culture populaire participe à la propagation des clichés raciaux, par exemple à travers des figures et des clichés qui sont encore célébrés aujourd'hui sans être remis en question. Et tu parles par exemple d'endoctrinement culturel avec des personnalités racisées qui participent elles-mêmes aux clichés raciaux ou à des stars adulées qui interprètent des œuvres racistes, comme par exemple, tu cites Édith Piaf. Tu parles aussi de fantasmes coloniaux et exotisants. Tout ça, tous les exemples que tu nommes, ils sont pas si lointains que ça, mais moi j'aimerais bien savoir si tu as des exemples plus récents de représentations coloniales dans la pop culture.
En fait, en représentation coloniale, je pense qu'on est submergé.
Ouais.
Quand on cherche vraiment, on trouve. Après, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple particulier, mais ça me fait penser au fait que on les identifie tellement peu. Qu'on y a droit, même dans les rediffusions, même dans des choses très anciennes, qui ne sont même pas remises en question encore. Et le fait de remettre en question de nouveaux contenus, ça nous montre aussi que y a une perpétuation, en fait, de tout. Par exemple, quand dans le livre, je parle aussi d'un film d'Astérix, où il est question... Enfin, c'était un de mes dessins animés préférés. On se rend compte qu'au tout début, il présente différentes nations, et au moment de présenter le Japon, il se tire les yeux, il prend un accent très typique, racialisant. Et ça encore, ça passe tous les Noëls, quoi, par exemple, à la télé.
Oui, il y a des rediffusions sans cesse de tous ces contenus-là, quoi.
Voilà.
Puis il y a un nouveau Astérix qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi.
Une merveille, visiblement.
Ah ouais ?
Non, pas du tout. C'est terrible, il y avait un multicasting. Enfin, il n'y a rien qui allait, apparemment.
Okay, je ne l'ai pas vu du tout, mais...
Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Mais en fait, déjà, rien que dans la promotion, j'en parle également. J'entendais beaucoup sur la question de la représentativité, le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs et d'actrices perçus comme asiatiques, que ce soit une avancée, etc., qui est quelque chose. Mais ça pose cette question de est-ce que... la représentativité est suffisante. Est-ce que ça suffit, comment ils sont exposés à détruire ces clichés ? Est-ce que ça les véhicule pas justement derrière, quoi ?
Et à un moment, tu dis, il est vain d'attribuer au temps le pouvoir d'atténuer les inégalités sociales. Il n'y a pas de changement sans lutte. Et j'aurais bien aimé, alors c'est une question très vague, mais comment, selon toi, on peut lutter concrètement, en fait, contre tout cet héritage colonial dans la pop culture à notre échelle ?
Alors, à l'échelle individuelle, je pense que ça sera toujours compliqué. Faut toujours viser le collectif et je pense que ça, c'est au cœur de mon action sur Insta et à travers ce bouquin. Ça a été toujours de mettre en avant en fait le continuum colonial dans lequel on se trouve, de mettre en avant la colonialité qui est indissociable en fait du racisme. Et dès lors où l'on parle de racisme et d'antiracisme sans évoquer la question coloniale, on fait fausse route, selon moi. Et c'est ce qui arrive assez souvent depuis des dizaines d'années. Ça veut dire qu'on va baser la question du racisme ou de l'antiracisme sur des questions assez morales, que c'est pas bien, que bon, on peut résoudre cela en disant stop, c'est pas bien. Et on reste dans un antiracisme de constat tout le temps, palliatif. Donc moi, je ne le considère pas comme antiracisme, mais il faudrait en fait réussir à poursuivre l'antiracisme de combat qu'on en a toujours connu et celui qui vraiment émancipe et libère.
Ok. Et bah, de toute façon, je l'ai remarqué aussi dans la culture, il y a des espèces de tropes, en fait, exotisants, fétichisants, etc., qui visent les personnes racisées qui sont réduites à des stéréotypes. Est-ce que toi, t'en as identifié, justement, dans la pop culture ? Enfin, je sais qu'il y en a plein, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, par rapport à l'exotisation, tout ça, des corps, bah, en fait... Tout au long de mon parcours, et je pense que toutes les personnes non blanches, les premières concernées, les voient, que ce soit dans le cinéma ou par exemple, moi en ce qui me concerne, j'ai été très marqué par un film quand j'étais petit sur la vie de Bruce Lee, qui s'appelait Dragon. Et en fait, il retrace la vie de Bruce Lee, et dedans, justement, il traite de cette question où. Son corps est convoité donc par celui de sa femme, mais enfin de sa future femme. Mais il y a une scène où il se trouve dans une voiture, où sa future femme se trouve dans une voiture avec sa copine. Et sa copine lui dit je comprends pas que tu fasses tout ça pour un Chinois, et comment ça se fait que tu puisses oser penser à glisser ta langue dans la sienne, dans sa bouche et tout, mais c'est horrible. C'est ça, quand je l'ai vu à mon âge assez jeune, ça m'a rappelé en fait toutes ces fois où j'avais pu être celui qui était inexistant, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec, par exemple, certaines cultures comme l'avènement de la K-pop. Mais ça pose une autre question, parce que je pense que moi, ce que je représente, ce que je reflète, n'est toujours pas dans ces codes-là.
Oui.
Et on se rend compte que la racialisation des corps participe d'une mode, et que d'une racialisation d'un côté éphémère, et que on va devenir une mode, et on va passer de mode selon un regard dominant, quoi.
Ouais. À un moment donné dans le livre, tu parles du rôle du rire dans tout ça, et tu parles d'un humour racial à la française. J'aurais bien aimé que tu développes, que tu nous dises un petit peu pour toi qu'est-ce que c'est l'humour racial à la française.
Alors l'humour racial à la française, je pense que j'ai grandi dedans. Déjà dans les années 80, on avait à l'école, on aimait beaucoup se rappeler les blagues de la veille qu'on avait vues à la télé, par exemple des Inconnus.
Ouais.
Y a un exemple assez parlant, c'est celui, je sais pas si tu vois, quand elle se grime en personne antillaise à l'hôpital.
Oui, je vois très bien.
Voilà.
À la poste aussi, il me semble, il y a un truc comme ça.
Il doit y en avoir, ouais. Et puis, par exemple, là, c'est un bon exemple où les trois imitent, les trois ou quatre, je sais plus, imitent, appuie ce cliché selon lequel les Antillais seraient feignants et qui prendraient du temps à réagir et tout. T'as par exemple aussi la parodie de Bioman, qui était un programme pour enfants d'origine japonaise, qui passait au Club Dorothée. Là, ils ont appelé ça Bioman, et en fait, ils se sont grimés en asiatique de l'Est, avec la peau un peu jaunâtre, les yeux tirés, et un accent très fort.
Okay.
Donc là, on est vraiment au milieu, au cœur de l'humour racialisant. On a été conditionnés à ça, et moi-même, j'ai grandi en devant rire de ça, même si au fond de moi, je trouvais que c'était bizarre. Je le reproduisais pour aussi m'en défendre, parce que lorsqu'on me le renvoyait, moi je renvoyais, en fait, je me sentais comme forcé de propager du racisme pour me défendre du racisme. Il y avait Michel Leeb aussi, par exemple.
Ouais.
Voilà, c'était très dans cet état d'esprit-là. Et je pense
qu'aujourd'hui... C'est quoi Michel Leeb ? Il faisait des sketchs racialisants ?
En fait, très raciste, en fait, tout simplement, où il imitait...
J'ai jamais écouté ce qu'il fait, c'est pour ça que je suis vraiment...
Alors, en fait, par exemple, il y a le sketch de l'Africain.
Ça s'appelle l'Africain ?
L'Africain.
C'est drôle, il y a une parodie
de lui-même, quoi.
Non, mais en fait, il fait le singe.
Ah bon ?
Ouais, il fait de la gestuelle très
signée. Tu sais qu'il est encore sur scène, ce mec ? J'ai vu des affiches dans le métro, genre, cette semaine.
Bah, récemment, il s'en était défendu. Et puis, il y avait toujours ce truc de « oui, mais c'était un autre temps, tout ça ». Et puis, je voulais pas blesser, mais... Et puis, je connais plein de personnes africaines, noires...
Qui ont rigolé,
qui viennent me voir, qui disent que je fais bien l'accent de tel ou tel. Bon.
Ouais. Ok, bon.
La caution,
merci
quoi.
Pour ce petit moment
voilà.
Info.
Mais oui, tu dis... À un moment donné, pour ne plus ressentir l'humiliation de leurs propos racistes, on avait intégré qu'il nous fallait en énoncer tout autant, si ce n'est plus. Et c'est ce que tu viens de dire. Et tu parles du coup d'auto-humiliation raciale et un peu sous couvert d'auto-dérision. Et ouais, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un peu ce que je faisais aussi. C'est un peu, t'essaies de dégoupiller la bombe avant qu'elle t'explose entre les mains, quoi.
C'est ça, c'est de l'anticipation et puis c'est de l'adaptation finalement à un système qui veut nous déshumaniser. Mmh. Et comme si on savait y évoluer, quoi. Donc on connaît les codes, donc on les ressort.
Ouais.
Et comme ça, on peut pas nous accuser de manque d'humour, de manque de...
Ouais, c'est ça, ça revient aussi. Si tu rigoles pas, on va te dire juste tu n'es pas drôle, c'était une blague, voilà. Détends-toi, quoi.
Ouais.
Et selon toi, est-ce que les mots tolérance et inclusivité sont pertinents quand on parle d'antiracisme, de représentativité et de décolonisation aujourd'hui?
Je pense qu'il contribue à un débat qui est intéressant, mais je pense pas que ce soit l'objectif à atteindre si on parle en termes d'antiracisme.
Okay.
Parce que l'inclusivité, pour moi, c'est l'évolution finalement de l'intégration, qui est l'évolution de l'assimilation. Il y a toujours un rapport de force et de domination qui concerne un groupe qui va inclure. Et un groupe qui doit être inclus, quoi. Donc,
Oui, il y a toujours un rapport de force, un dominant qui tolère et qui s'accommode un peu de la situation et l'autre groupe dominé.
Voilà, et c'est en ça que, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de prendre conscience de la colonialité, c'est peut-être de manière utopique que je le faisais en lançant le compte Instagram, mais moi, dans ma vision des choses, il faut que ce soit une prise de conscience massive et majoritaire, sans quoi le pouvoir politique que pourrait avoir l'antiracisme ne serait pas.
Mmh.
Voilà.
Donc il faudrait aller plus loin en fait que juste la question de la représentativité et se dire voilà, à l'affiche, il y a des personnes noires, il y a des personnes asiatiques, quoi.
Bah, c'est clairement une question de pouvoir et de politique. Ça veut dire que qui va être décisionnaire, qui va mettre l'argent et où ça va être mis et pour dire quoi, finalement. Parce qu'on peut mettre des corps non blancs partout, mais si le propos il n'est pas pertinent et vraiment antiraciste, et si il va juste répondre à une certaine lutte actuelle ou à une certaine demande actuelle sans aller plus loin, finalement dans la racine du problème, étymologiquement, ben, dans la radicalité en fait, ce qu'il faut pour aller à la source du problème, ben, on va toujours être dans la réaction.
Ouais, puis c'est très en surface, quoi. Et à un moment, tu parles aussi d'hypervigilance versus l'insouciance quand on consomme de la culture. Donc l'hypervigilance qui serait quand même propre aux personnes racisées et l'insouciance des personnes, du coup, non racisées quand elles consomment de la culture. Est-ce que pour toi, les personnes racisées peuvent quand même avoir accès à cette insouciance et au divertissement aujourd'hui?
C'est une vigilance qu'il faut avoir, finalement. Ça veut dire toujours être aux aguets et puis se dire je vais chercher un contenu qui me semblera ne pas être me trigger ou quoi.
Okay.
Mais en tout cas, cette notion qui a été évoquée par Maboula Soumaoro, ce droit à la légèreté, il est important.
Ouais.
Mais il est difficile à avoir parce qu'on a ce qu'on appelle la charge raciale en parallèle avec la charge mentale. Le fait de toujours devoir expliquer, de toujours faire attention à tout ce qui a trait à la question raciale autour de soi, aux personnes qui ne seraient pas aguerries sur le sujet, c'est mentalement usant, quoi.
Ouais, carrément. Et tu parles aussi de trauma porn dans la pop culture, dans les médias. C'est-à-dire qu'on serait en fait habitué à avoir de la violence infligée au corps racisé. Rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient et peut-être nous dire, est-ce que pour toi, tu penses que ça perpétue une violence dans la vraie vie? Cette violence qu'on voit à l'écran, par exemple?
Oui, carrément, en fait. Le trauma porn, c'est le fait d'exposer aux yeux de tout le monde, à la conscience de tout le monde, la violence qui s'applique au corps et aux esprits racisés, défavorablement racialisés. On va s'habituer à ça, on va même en faire des divertissements, enfin du cinéma, des choses comme ça. Et d'ailleurs, dans le livre, quand je parle de l'inverse, quand on va exposer des corps blancs à une certaine violence auquel il n'est pas habitué, là, il y a des levées de boucliers dans tous les sens dans notre société. Par exemple, comme le clip du rappeur...
Nick Conrad, c'est
Nick
ça ?
Nick Conrad, voilà, ça avait foutu un bazar pas possible de manière médiatique. Mais
c'était quoi son clip ?
En fait, c'était Pendez les Blancs.
Ah, ok, c'est bon, je vais.
Voilà.
Tu l'as. je me rappelle de ma mère dire quoi ?
En fait, voilà, le concept, si on s'y intéresse, on se dit, c'est une uchronie, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui est vraiment poussé à l'extrême pour forcer les gens à réfléchir.
À se poser des questions.
Voilà, se poser des questions. Dans l'autre sens, par contre, on a beaucoup, beaucoup de films qui traitent de l'esclavage, des guerres, par exemple, qui ont eu lieu au Vietnam, des choses comme ça. Et on a tout le temps des images de violences qui ont été appliquées, qui ont été réelles. Par exemple, du viol des...
Sur ces corps-là, alors que
ces corps, voilà.
Quand c'est sur un corps blanc, on voit tout de suite la différence de réaction.
Voilà, et parce que ça n'a jamais existé, en tout cas, dans ce contexte-là, on se dit, non, mais là... Ça n'a jamais existé, c'est pas historique, donc ça sert à rien d'en parler, c'est violent, c'est...
D'accord. Donc ça, l'histoire serait un peu un prétexte aussi pour finalement...
toujours montrer la même chose à l'écran, quoi.
Voilà.
Et est-ce que pour toi, du coup, toutes ces... J'imagine que oui, mais est-ce que toutes ces représentations, ça a un impact sur ta santé mentale et sur celle de tes proches ? Moi, je sais que par exemple, oui. Évidemment, quand on voit le trauma porn, quand on parle aussi d'hypervigilance, faire attention... à tous les contenus qu'on regarde et voir aussi que les personnes autour de nous qui sont pas racisées ne voient pas justement où est le problème dans certains contenus, tout ça, ça participe forcément à la dégradation de la santé mentale. Je voulais savoir si c'était le cas pour toi aussi.
Oui, maintenant, moi, c'est le cas parce que une fois qu'on prend conscience que ça nous détruit finalement mentalement, on accorde une attention particulière à éviter tout ce genre de contenu. Et malheureusement, c'est difficile parce qu'on est dans une société où une majorité ne va pas voir le mal là où il est. Et du coup, on y est exposé de manière constante, et notamment mes enfants. Lorsque je parlais tout à l'heure d'Astérix et les douze travaux d'Astérix, quand ils m'ont demandé si j'avais un dessin animé à leur conseiller, je leur ai conseillé. Mais je me souvenais plus, en fait, de cette intro-là où quand j'étais petit, j'étais passé outre.
Ouais.
Et quand ils sont revenus me dire « mais... en fait, c'est bizarre, pourquoi il fait ça ? C'est raciste. » Et du coup, j'ai fait « ah bon ?» Et quand j'ai revu la scène, ça m'a replongé 30 ans en arrière en me disant « ah ouais, mais j'avais oublié complètement ce truc.
Okay. »
Où je me sentais très mal et où je l'avais intégré comme quelque chose de
normal.
De normal, ouais.
Ok, donc c'était tes enfants finalement qui t'ont un peu rappelé à l'ordre, quoi.
C'est ça. Bah, okay. Et ça m'a rappelé que oui, en fait, ouais, on est dans une société où il faut faire gaffe à chaque fois. Et puis, ce qu'on transmet, c'est pas une injonction à interdire de le voir, mais c'est au moins une invitation à en parler avec mes enfants et dire,
avoir plus fort un esprit critique, quoi, être au courant des tenants et des aboutissants pour se faire son propre opinion.
Voilà, donc c'est pas du tout de rentrer dans le débat de la cancel culture dont on nous accuse, etc.
C'est en fait, avoir un regard éclairé sur les choses.
Tout à fait. Et puis expliquer, surtout. Et en fait, pour qu'ils puissent se situer dans la société, se dire « ah ok, bon, c'est comme ça que ça se passe ».
Ouais.
Voilà.
Prendre du recul sur les choses, quoi. Mais du coup, on n'a pas cette fameuse insouciance, malheureusement.
Non.
Bah, en tout cas, merci beaucoup, Franck.
Merci beaucoup, Franck.
Vous pouvez du coup retrouver le livre « Décolonisons-nous » dans toutes les bonnes librairies de Franck Lao aux éditions J.C. Lattès. Merci beaucoup.
Merci.
Aïe, oula, le feu ça brûle.
Ça me fascine.
Au bûcher.
Ok.
Ding dong, c'est la sorcière.
N'importe quoi.
Alors aujourd'hui dans la rôtisserie, on va parler du musée Grévin et de whitewashing de The Rock, l'acteur.
Ok.
Est-ce que vous comprenez déjà l'enjeu ?
Oui, bien sûr.
Ton niveau d'étonnement, voilà. Il est 0-0 ou 0 ?
0,00, je pense.
Donc, le mardi 23 octobre, l'acteur The Rock a partagé une vidéo de l'humoriste américain James André Jefferson qui commentait la statue, enfin sa propre statue, la statue de The Rock, au musée Grévin. Donc, musée Grévin qui est connu pour...
ses statues.
Absolument. Être un des aussi un des musées les plus cringe de France et de Navarre, pour ses statues de cire représentant des stars. Et surtout, un petit non-détail, la couleur de peau de l'acteur qui était... très blanche. Voilà, okay. Je voulais faire comme s'il y avait un mystère. Alors, qu'on savait ce que j'allais dire. Donc, il y a l'humoriste qui dit, on dirait que The Rock n'a jamais vu la lumière du jour. Vous l'avez fait ressembler à David Beckham. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, Franck, tu parlais de comment l'humour pouvait aider à faire passer ses idées. Ou au contraire, comment on pouvait l'utiliser en se disant, ah, ça me fait rire. Puisque The Rock, finalement, a réagi en partageant la vidéo de l'humoriste. Okay. Qui riait de cette... acteur raciste. Beaucoup d'internautes y ont aussi vu la ressemblance avec Monsieur Propre. L'acteur a alors demandé au musée de retoucher sa statue de cire qui avait été inaugurée une semaine plus tôt. Et dans un communiqué de presse du 11 octobre, le musée précisait d'ailleurs que pour réaliser la copie parfaite de l'acteur, 6 mois de travail avaient été nécessaires. Je trouve ça hyper drôle, genre, d'avoir passé 6 mois et vraiment...
C'est clair. Je suis en train de regarder la photo.
La peau was the detail. Bref, surtout, ils ont dit avoir travaillé toute la nuit pour que la statue soit plus en adéquation avec les attentes de ses fans.
Ouh là
pas
là.
Avec la réalité, okay. Mais avec les fans qui, j'imagine, selon le musée, quoi, on peut plus rien dire, on peut me conseiller la culture. Ils ont aussi dit que c'était sûrement une question de lumière. Bref, on n'est pas prêts et prêtes d'entendre des excuses de leur part. En tout cas, ce cas de whitewashing est loin d'être le premier. En 2017, c'était le musée Madame Tussaud, basé à New York, qui avait été accusé d'avoir raté et blanchi la statue de Beyoncé. Le blanchiment de la peau des artistes noirs a aussi été un problème, souvent relevé en couverture de magazines. Donc au final, The Rock, peu rancunier, en a parlé avec beaucoup d'humour, a dit qu'il viendrait boire un café avec sa propre statue à l'occasion. J'imagine que c'est cool, ils pourront parler raciste, mais sa statue, comme la société, restera de marbre. Jeu de mots, on est autrice ici.
C'est quoi ta reco?
Whatever.
Franchement, c'est vraiment hyper niche.
Je l'ai vu sur Twitter.
J'ai pas envie d'être méchante.
Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et puis j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors bon, j'ai pas fait très niche cette semaine, j'ai plutôt binge-watché une série Netflix qui s'appelle Everything Now et qui est sortie le 5 octobre dernier. Je vous fais un petit peu le pitch, en gros c'est une jeune fille, Mia Polanco, qui a 16 ans et en fait elle a lutté pendant des mois pour se sortir un petit peu de ses troubles alimentaires et elle a préparé une liste de choses à faire pour vivre sa vie d'adolescente sans perdre de temps. Alors il y a des similarités avec Sex Education qui est aussi sorti sur Netflix. Donc c'est une bande d'amis adolescents, adolescentes au lycée. C'est une série aussi qui est britannique. Il y a quelques personnages queer. Mais pour moi, les ressemblances s'arrêtent un petit peu là, je trouve. Et en gros, on suit le personnage de Mia qui se rend compte que le monde, il a continué de tourner. Même lorsque elle a passé 7 mois dans un hôpital pour l'aider à combattre son anorexie. Et pendant ce temps, ses amis, ils ont fait la fête, ils ont perdu leur virginité, etc. Enfin, ils ont vécu leur vie d'adolescent, d'adolescente. Et puis elle, en sortant de là, elle se met en fait en tête de rattraper le temps perdu. Mais il y a un petit peu sa maladie qui la rattrape et qui reste toujours en toile de fond. Alors moi, j'ai bien aimé cette série. Ça romantise pas les TCA. Ça montre l'impact sur l'entourage familial et amical. En gros, on voit ses amis qui ont toujours un petit peu l'impression de ne jamais faire assez pour elle. Ils s'en veulent de ne pas toujours voir sa détresse, de ne pas toujours voir sa maladie. Ils lui cachent certains aspects de leur vie pour ne pas la fragiliser. En gros, ils marchent un petit peu sur des œufs. Puis il y a aussi son père qui essaye d'être présent, peut-être un petit peu trop, qui l'étouffe par moments. Sa mère qui n'arrive pas trop non plus à savoir comment gérer sa maladie et qui réalise pas vraiment en fait la gravité de la situation. Et puis il y a aussi son petit frère qui s'efface et qui tente un petit peu comme ça de rester fort pour l'aider, pour être le pilier de la famille. Et donc on voit évidemment l'impact de la maladie sur son corps, sur sa vie, sur sa santé mentale et sur tout ce que la maladie finalement lui a volé. C'est un petit peu ça le but de la série, puisqu'en fait elle va faire toute une liste, une to-do list, enfin une wish list plutôt de choses à faire pour rattraper le temps perdu. Donc, je sais pas moi, sauter en parachute, tu vois, des trucs un peu comme ça qu'on peut faire.
Manger de la viande. Non,
manger de la viande. Et en fait, la série, elle se concentre, je trouve, moins sur le pourquoi de la maladie, ce qui est un petit peu, je trouve, le défaut des séries qui parlent de TCA. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'elle est
tombée? C'est le symptôme mis en avant et pas l'origine du mal.
Et là, je trouve que ça met plutôt l'accent sur le quotidien, sur le chemin de guérison qui est long et qui, justement, a des hauts et des bas très bas, des rechutes, du désespoir, du deuil aussi, parce qu'elle perd des amis. Enfin, voilà. Ça reste quand même une série Netflix, hein, ne vous attendez pas non plus à des personnages de fous et à des scénarios de malades. Mais je trouve que c'est plutôt cool pour des ados, des jeunes adultes, pour aborder le sujet des TCA. Ça se regarde facilement, ça reste quand même des sujets lourds. Mais je vous conseille cette série, donc je le répète, c'est Everything Now sur Netflix.
Merci Audrey, bah écoute, on ira regarder cette série Netflix Everything Now. N'hésitez pas à dessiner vos copains noirs, mais du coup mettez leur bonne couleur de peau. Je sais pas, j'essaie de faire
un rapport
avec la statue de The Rock, qui pour le coup n'avait pas été franchement ressemblante. Et surtout, surtout, délectez-vous du dernier livre, enfin du premier, mais on espère que c'est pas le dernier livre de Franck Lao, Décolonisons-nous, qui est paru chez J.C. Lattès et que vous pouvez retrouver chez vos meilleurs livres. Merci encore Franck d'être venu et de nous avoir donné autant d'informations avec autant de pédagogie.
Ouais, merci
et de
beaucoup.
Douceur. J'ai vraiment adoré ce podcast, l'ai même adoré quoi.
Merci, merci.
Merci, à bientôt, bye. Les mains dans la pop est une émission de nouvelles écoutes animée par Audrey Coupé de Kermadec
et Mao Drama.
Produite par Julien Neuville, enregistrement, montage, mixage par Constant Justin à Caleçon Studio, directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice commerciale, Emmanuel Fortunato. Chargée de production, Mathilde Jonin. Assistante de production, Lila Bordelais.